Et que de toute gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole ce soir. Et j'aimerais m'arrêter avec vous sur une vérité que nous connaissons. Pour tout vous dire, j'avais préparé le message avant de savoir ce que j'ai su ce matin. Et quand j'ai su ça, je dis que j'ai vu ce que j'allais apporter ce soir, je me dis c'est ça. Hein. Cette vérité biblique, hein, on la connaît. Et je voudrais vous montrer que ça ne ressort pas une fois ou deux dans la Bible. Voyez, c'est pas au détour d'une situation, ça s'est passé une fois, allez, deux fois, et puis ça ne s'est plus jamais passé. Non, ça s'est passé une multitude de fois. On l'a vécu pour certains, et on le vivra encore. C'est que Dieu change le mal en bien. Je voudrais vraiment partager un peu cette pensée ce soir. En tout cas, c'est ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Et ça prend d'autant plus de valeur avec tout ça. Alors regardez avec moi, on va lire la fin de l'histoire de Joseph. Hein, verset d'introduction, Genèse 50, verset 15. On est tout à la fin de cette histoire que nous connaissons. On aime bien l'histoire de Joseph. Et vous rappelez qu'à la fin, il ne va plus que rester que les frères. Et puis Joseph, papa Jacob décède. Et puis il est dit ceci, Genèse chapitre 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, ô pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Et c'est le verset qui m'intéresse. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et les consola en parlant à leur cœur. Voilà. Vous aviez médité de me faire du mal et Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Hein? C'est fou cette histoire quand on y réfléchit. Parce que... c'est vrai qu'on s'extasie souvent devant l'histoire de Joseph, en disant ouais, c'est super, on la raconte, on aime bien la raconter aux enfants, on aime bien la raconter à l'un, à l'autre, parce que c'est une saga, hein. Il y a tout un tas d'épisodes là, quand vous regardez, et puis quand on voit le dénouement, on se dit ouais, c'est super, mais enfin quand même, quand on pense à tout ce que Joseph a subi, on oublie souvent tout ce côté-là, ce qui a dû se passer dans son cœur, les émotions qu'il a dû ressentir. Enfin, il y a du moment, ça a été des coups de poignard, vous voyez, quand il a été vendu par ses frères. Enfin, je ne sais pas si on peut imaginer tout ça, vendu par ses frères, hein, après la femme de Potiphar. Enfin, ça a été terrible. Et pourtant, et c'est ça qui est beau, c'est que c'est lui qui dit, vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Ça veut dire qu'il en prend conscience. Voyez, et ce soir, je voudrais encore que vraiment on réalise que quelles que soient les situations, des fois on ne comprend pas, et je me dis que Joseph, plus d'une fois, il a pas dû comprendre, mais c'est lui qui affirme, c'est lui qui proclame, Dieu l'a changé en bien. Le mal, Dieu l'a changé en bien. Et c'est fou de se dire que dans cette histoire, tout ce qui s'est passé, c'était le plan de Dieu. On a du mal à l'imaginer. Mais regardez, d'ailleurs, un peu avant, il le dit, Genèse 45, verset 8, c'est le moment où ses frères vont découvrir que c'est Joseph, et Joseph va dire à ses frères, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Sauf qu'avant d'en arriver là... Il s'en est passé des choses, voyez. Mais voyez, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, voyez. Il prend conscience que tout ça, derrière tout ça, il y avait la main de Dieu. Et dans le psaume 105, regardez, psaume 105, verset 17, c'est répété, voyez. C'est pourtant là, on est plus du tout les, on est plus du tout à la même période. Il nous est dit, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Voyez, Dieu envoya devant eux un homme. Voyez, tout ça, c'était le plan de Dieu. Tout ça, c'était le plan de Dieu, voyez. Mais il ne faut pas oublier que cette histoire, même si elle est belle, même si elle est extraordinaire, c'est l'histoire d'un mal qui a été changé en bien. Voyez, l'histoire d'un mal qui a été changé en bien. Gloire à Dieu. Et le fait que vous avez des tas d'histoires dans la Bible, et je vais vous livrer un petit échantillon, parce que je pense que c'est bien de s'en rendre compte, d'en prendre conscience, que ça ne s'est pas passé qu'une fois ou deux. Voyez, mais c'est quelque chose qui revient. Mais c'est tout sauf anodin, se rendre compte, voyez. Alors par exemple, on vient de voir l'histoire de Joseph qui proclame, qui dit, Dieu, vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Mais prenez l'histoire de Daniel. Mais l'histoire de Daniel, là encore, on s'extasie devant la fournaise ardente. Quoique je préfère eux que moi. Hein. Hein, la fosse au lion. On est là, on raconte ça aux enfants, c'est super. Wow, la fosse au lion. Quand on imagine ça, quand on essaie de voir un peu, de visualiser la scène, c'est glorieux, quoi. C'est beau, vous voyez. Sauf qu'on oublie. On oublie qu'à la base, ça a été terrible, quoi. Parce que quand Daniel chapitre 1er, quand Nebuchadnezzar est arrivé à Babylone et qu'il a emporté tous les enfants, enfin tous les jeunes garçons qui étaient beaux, qui étaient, voyez, etc., etc., hein, vous imaginez un peu séparation de parents avec des enfants. Ça a dû être, mais quelque chose de terrible, voyez. Moi j'imagine les parents qui ont vécu ça, qui ont vu leurs enfants partir en esclavage, partir en déportation. Mais je me dis, ça a dû être un déchirement. Surtout que la Bible ne dit jamais qu'ils les ont revus, les parents. Hein. Ils sont restés à Babylone. Daniel, il est resté à Babylone. Hein. Mais quand on voit ça au départ, ce mal, et si Nebuchadnezzar était venu, c'est parce qu'à la base, Israël avait désobéi. Voyez? Mais on se rend compte que d'un mal, Dieu va en faire un bien. Et puis, on voit que quelque part, ces quatre garçons, bon, il a fallu qu'ils se positionnent quand même. Hein, voyez, Dieu change le mal en bien, dans la mesure où quelque part, nous aussi, on fait ce qu'on a à faire. Quand nous, on prend les positions qu'il faut prendre, et quand on prend les décisions qu'il faut prendre. Voyez, mais quand on voit ceux qui sont devenus des hommes de Dieu extraordinaires, et quand même, ce même Nebuchadnezzar qui les avait embarqués en déportation, ben, c'est devenu un croyant. Quand vous lisez la conversion de Nebuchadnezzar au chapitre 4, c'est extraordinaire, voyez? On est là, on se dit, waouh, super, oui, mais encore une fois, un mal a été changé en bien, voyez? Et cette histoire est extraordinaire parce qu'on se rend compte que là où le diable semblait avoir gagné, là où quelque part le diable semblait avoir pris le dessus, Dieu était capable de changer tout ça et de changer le mal en bien. Et c'est vrai qu'il y a parfois des situations où on a l'impression que le diable prend le dessus, hein? Sans voir le diable partout, hein. Moi je vois pas le diable partout. Mais enfin, il y a des situations, on a l'impression que il a le dernier mot, vous voyez. Mais même là, Dieu est capable de changer le mal en bien. Alléluia. Même là, Dieu est capable de tout transformer. Voyez. Ça, c'est l'histoire de Daniel. Vous voyez. Au début, vous lisez Daniel chapitre 1er, c'est la catastrophe. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est glorieux parce que Dieu change le mal en bien. Alléluia. Et cette vérité, vous l'avez là. J'ai pris deux exemples de l'Ancien Testament. Mais alors, dans le Nouveau Testament, j'allais dire, c'est presque pire. Hein. Parce que vous découvrez que ça ressort. Il y a un texte que j'affectionne particulièrement, je l'ai déjà partagé. On va le lire. Regardez, dans Acte 8, il est dit ceci. Ça commence mal, encore une fois. Hein. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Alors déjà, vous commencez là. Vous avez du mal. Vous voyez, ça a du mal à passer, quoi. Vous voyez? Il eut ce jour-là. Et regardez, tous les mots sont importants. Tous les mots sont importants. Il eut ce jour-là. Déjà, une persécution, c'est pas mal. Mais là, il est dit une grande persécution. Alors, je ne sais pas, enfin, je sais pas la différence entre une persécution et une grande persécution. Je me dis, ça doit être terrible. Il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et regardez, ça devient de plus en plus dur. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Okay? Et verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'église. Et ce mot-là, ravager, dans le grec, moi, je ne suis pas un spécialiste de grec, mais ça, je le sais. Dans le grec, c'est une notion de marquer. Quand il est dit qu'il ravageait l'Église, il voulait les marquer. C'est mettre un stigmate. Vous voyez, il y a une marque. Vous voyez, des fois, vous prenez un coup, vous avez une marque. Mais c'est ça, vous voyez. En fait, quand il dit ravager l'Église, c'était il cherchait à les marquer. C'est ça, dans le texte original. Il cherchait à les marquer, il ravageait l'Église. Ça fait peur, oh, c'est violent. Oh. C'est violent, il ravageait l'église. Regardez, il pénétrait dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Vous imaginez, il en arrachait. Vous lisez ça, mais vous dites, qu'est-ce que vous voulez faire? Et ça, c'est moi qui le dis. Hein. Moi, quand je lis ça, j'ai l'impression de voir, je ne sais pas si j'ai l'imagination fertile, mais le diable qui est content là-haut, voyez? Et qui boit l'apéro avec les démons. Il est content, vous voyez. Et puis verset 4, et ce verset, moi je l'aime. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et c'est un verset qui ne paye pas de mine, hein, mais qui montre que là encore, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Parce que dans les trois premiers versets, il semble avoir gagné. Mais d'un mal, Dieu va en faire un bien. Parce que à ce moment-là, Saul, les religieux et l'ennemi pensaient avoir mis à mal l'Église, terminé l'Église. Non seulement elle n'a pas terminé, mais elle s'est dispersée. Et l'Évangile s'est répandu de partout. Et quand vous lisez la suite, en Samarie, Philippe est parti, il y a eu un réveil extraordinaire en Samarie, vous lisez la suite, hein, il y a eu ce ministre éthiopien qui s'est converti, qui est parti en Éthiopie, qui a répandu l'Évangile, enfin, ça a été une explosion de l'Évangile. Et alors que au départ ça part mal, mais on voit que quelque part Dieu se sert d'un mal pour faire glorifier son nom, vous voyez, c'est extraordinaire, vous voyez, et vous avez ici, au travers de ce verset, l'accomplissement de ce que Jésus avait dit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et justement, dans la Samarie, ben c'est ce qui s'est passé là. Ils sont tous partis, ils sont à la Samarie, qui quand même à la base, les Samaritains, ils n'étaient pas trop aimés des gens de Jérusalem. L'Évangile s'est répandu jusqu'à Samarie, quelque part. Ben, la promesse de Dieu, elle s'est accomplie. En tout cas, la promesse du Seigneur, elle s'est accomplie dans la persécution. D'un mal, le Seigneur en a fait un bien. Voyez ? Il semble que l'ennemi, encore une fois, prend le dessus, mais c'est le contraire qui se passe. Dieu est capable de changer les situations. Voyez ? Et quelque part, moi, ça m'encourage. Voyez ? Dieu est capable de changer le mal en bien, parce que parfois, il y a des situations, on est comme ça, on se dit, mais c'est invraisemblable, on a l'impression que l'ennemi prend le dessus. Mais au travers de ça, Dieu s'en sert pour accomplir ses plans, pour accomplir ses promesses. Dieu tient toujours ses promesses. Nous, parfois, non. Alors, il les accomplit parfois pas exactement de la manière dont nous, on aurait pensé qu'il les accomplirait. Parce que je ne pense pas qu'ils avaient envie de subir ça, quand même, les croyants. Mais finalement, ça les a forcés à se disperser. Et plutôt que de quelque part de casser l'explosion de l'Évangile, ça l'a démultiplié, oui. Et d'un mal, Dieu en a fait un bien, voyez. D'un mal, Dieu en a fait un bien. Et moi, ça m'encourage, parce qu'il y a tellement de situations où on se dit, mais c'est compliqué. Et on voit que Dieu est capable de reprendre le dessus sur la situation, et flaf, voyez, gloire à Dieu. S'il y en a un qui a vécu ça, d'une manière extraordinaire, c'est l'apôtre Paul. Alors, plus d'une fois. Rappelez-vous, par exemple, quand il écrit aux Philippiens, vous savez que Paul a écrit l'épître aux Philippiens alors qu'il est en prison. Et il va dire ceci, Philippiens chapitre 1, verset 12, et ça c'est un verset qu'on peut tous s'attribuer. On peut tous se l'appliquer. On peut se l'appliquer ce soir. Regardez ce qu'il dit. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé. Alors je nous pose la question, qu'est-ce qui nous arrive en ce moment? Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Et tout ça, on peut le dire. Hein, ben, si tu savais ce qui m'arrive en ce moment, si tu savais ce qui me tombe sur la tête, hein, si tu savais ce que je vis, si tu savais ce que je traverse, c'est abject, c'est je comprends pas, ça, voyez. Et ben on peut tous le prendre ça. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé, et là on pourrait dire, la suite elle va pas être belle. Hein. Eh ben regardez, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Comment ça se fait? Quand il dit ça, il est en prison. Hein. Et quand il dit ce qui m'est arrivé, c'est le fait d'être en prison. C'est ça qui lui est arrivé. Et il voulait certainement pas y être. Hein. Vous voyez, regardez, a contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. C'est quand même dingue ça. Vous voyez, ça a fait l'effet inverse. On a enfermé Paul pour le faire taire et ça a fait l'effet contraire parce que tout le monde a su pourquoi il était là. Et plutôt que de restreindre l'Évangile, ça a amené encore à se répandre encore plus. Voyez. Et au travers de cet exemple, moi je me dis, mais on ne se rend pas toujours compte que parfois, sur le moment, c'est vrai que ce n'est pas facile à vivre, ce n'est pas simple. Mais ce qui nous arrive, parfois Dieu s'en sert pour que d'un mal, il soit transformé en bien. Alléluia. Des fois, on peut se retrouver dans des prisons, hein, comme Paul. Hein. Ce n'est pas des prisons de barreaux. Mais quand vous vous retrouvez dans la maladie, c'est une prison. Hein. Vous n'avez pas cherché à être là, mais vous y êtes, hein, comme Paul. Quand vous êtes au chômage, ça vous tombe dessus, vous perdez votre emploi, c'est une prison. Hein. Vous n'avez pas cherché à être là, mais vous y êtes, hein, voyez, etc., etc., etc. Voyez, vous pouvez vous retrouver dans toutes sortes de prisons. Voyez, vous dites, mais qu'est-ce qui peut en sortir de bon? Eh bien, d'un mal, Dieu est capable de le changer en bien. Alléluia. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et quand je lis ça, je me dis, mais c'est quand même dingue. En effet, dans tout le prétoire, partout, on sait que c'est à cause de Christ que je suis là. Ça fait l'effet inverse. Ça a fait l'effet inverse. Combien de fois j'ai entendu ce témoignage, et moi je l'ai vécu, hein, des frères et des sœurs qui se retrouvent à l'hôpital, et ils se retrouvent à l'hôpital dans un état pas possible, et puis après vous allez les voir, tout ça, puis bon, moi qui n'ai pas l'habitude de parler, j'arrête pas de parler du Seigneur, j'arrête pas de parler à la voisine, tout ça, etc., etc. Combien de fois je me suis retrouvé dans les hôpitaux à prier non pas pour le chrétien, mais pour celui d'à côté. J'ai dit, finalement, c'était bien que tu viennes là, hein. Ouais, bon, lui, il a pas trop envie, mais il s'est fait opérer, il s'est fait charcuter, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais ça nous a donné des occasions de parler du Seigneur, et plutôt que quelque part d'être quelque chose de négatif, ça a été positif, parce que les choses se sont répandues, vous voyez, et Dieu se sert de toutes les situations, ce qui nous arrive, peut-être ce qui t'arrive en ce moment, c'est pas facile, c'est pas simple, je suis pas en train de dire qu'on est en train de sauter à la corde et qu'on est content de ce qui nous arrive, mais ce que je suis en train de dire, c'est que des fois, et même souvent, Dieu se sert de ce qui nous arrive pour glorifier son nom. Ça, on le voit après. Ça dit, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. Voyez. Rappelez-vous, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on s'est arrêté sur ce texte de Acte 28. Rappelez le serpent qui s'est accroché à la main de Paul. On a parlé de ce texte la semaine dernière. Hein. Mais Paul qui est sur l'île de Malte. Mais on n'a pas lu la suite. On s'est arrêté sur le texte, là, l'histoire de la vipère qui s'est accrochée. Mais la suite, quand vous lisez, vous rendez compte qu'à Malte, il y a eu un réveil. Il y a eu un réveil. Regardez, acte 28. Ça, on est après l'épisode de la vipère là, qui s'est attachée à la main, hein, juste après. Et suite à ça, il nous a dit, il y avait dans les environs des terres, appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Regardez la suite. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Et il nous a dit, on nous rendit de grand honneur et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Mais c'est dingue cette histoire. C'est dingue cette histoire. Parce que quand même, quand vous réfléchissez, on peut se dire, ouais, c'est super, il y a eu un réveil à Malte. Sauf qu'à la base, l'apôtre Paul n'aurait jamais dû se trouver là. Jamais. Puisqu'il s'est trouvé là à cause du naufrage, là, acte 27, on rappelait, c'est une catastrophe, le bateau il se fracasse, enfin, c'est un truc de fou cette histoire, hein, quand vous voyez ça, et il s'est retrouvé là parce qu'on n'a pas voulu écouter les paroles de Paul, on a écouté les paroles du centenier, du pilote, hein, on n'a pas trop regardé que c'était pas la bonne période pour naviguer, enfin... Et finalement, ils se sont retrouvés sur cette île alors que ce n'était pas du tout prévu. Et là, sur cette île, il y a un réveil. Mais c'est fou. Dieu change le mal en bien. Dieu change le mal en bien. Et pour nous, il y a une leçon extraordinaire là. C'est que parfois, on se retrouve dans des endroits ou des situations qu'on n'avait pas prévues, en tout cas qu'on n'avait pas cherché, qu'on n'avait pas voulu. Voyez ? Et on s'est dit, mais pourquoi Seigneur, tu m'as amené là ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi je vis ça ? Pourquoi je traverse ? En tout cas, on n'a pas cherché du tout à être là. Eh bien... Dieu change le mal en bien. Gloire à Dieu. Voyez, hein, que de fois, on se trouve dans des contextes, des situations. Bon, mais ce n'est pas possible. Comme Paul, qui peut-être au départ, bon, Dieu lui avait dit, écoute, il faut que tu ailles à Rome. Mais il a fait un sacré détour, hein, pour arriver à Rome. Parce que si vous regardez un peu la carte, hein, y avait une route plus directe pour y aller, quoi, hein, que de passer par Malte. Quoi, voyez. Et des fois, Dieu nous fait prendre des détours. Hein. Il se dit, mais Seigneur, pourquoi ce détour-là, hein. Eh ben, Dieu est capable de changer le mal en bien. Dieu est capable de changer le mal en bien. Ah, peut-être ce soir, je ne sais pas, peut-être on est dans une situation, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je traverse ça ? Ben, si Dieu veut changer le mal en bien, il le fera. Alléluia, c'est ce qui s'est passé sur l'île de Malte. Hein. Alléluia. Et puis, peut-être un dernier exemple. J'ai lu, ce week-end, j'ai relu la petite histoire de Philémon. La petite épître de Philémon. Ce n'est pas parce qu'elle est petite qu'elle n'a rien à dire. Hein. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire. Parce qu'elle est, là aussi, elle est invraisemblable, cette histoire. Onésime, hein, celui qui veut dire inutile, qui est devenu utile. Voyez, l'histoire d'Onésime. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais résumer. Onésime, c'est un esclave. Il travaille pour un patron, parce qu'à l'époque, il y avait des esclaves. Il travaille pour un patron qui s'appelle Philémon. Et Philémon, il est chrétien. Il connaît le Seigneur. Et puis Onésime, par contre, lui, pas du tout. Et on comprend en lisant quelques versets... qu'à un moment donné, Onésime, il est parti, il s'est plutôt enfui, voyez, mais il ne s'est pas enfui les mains vides. Donc moi, je vais le dire avec mes mots, il est parti avec la caisse. Voilà, on va le dire comme ça, il est parti avec la caisse, ou les bijoux, je ne sais pas ce qu'il a pris, mais il est parti avec, voyez. Et puis, la Bible ne rentre pas dans tous les détails, mais il s'est fait attraper. Il s'est retrouvé en prison. Et comme par hasard, il s'est retrouvé dans la bonne prison, dans la bonne cellule, au contact de l'apôtre Paul. Ça fait beaucoup de coïncidences quand même. Hein. Vous ne trouvez pas ? Je ne sais pas si vous trouvez. Mais enfin, voyez. Et l'apôtre Paul va lui témoigner et cet homme, il va se convertir. Voyez. À tel point que, regardez ce que Paul dit, il écrit, ensuite il écrit à Philémon et il dit « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Et regardez, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité. » Alléluia. Vous relirez même la suite, les versets qui suivent, c'est beau. Mais quand vous lisez ça, vous vous rendez compte, vous vous dites, mais c'est invraisemblable parce que Dieu a fait coulisser les choses pour que tout s'imbrique, voyez. Parce que, le hasard, souvent, c'est Dieu qui se cache derrière le hasard. Hein. Les gens disent, c'est le hasard fait bien les choses. Moi, je crois qu'il y a Dieu derrière. Hein. Je crois que le hasard, il porte un nom, c'est le nom de Dieu. Hein. Et quand même, pour partir, j'ai envie de dire, il quitte un chrétien et puis il se retrouve avec un autre chrétien. Vous voyez, c'est quand même fou, quoi. Il s'enfuit de chez le chrétien parce que peut-être il se disait, celui-là, j'en peux plus de l'entendre parler de Jésus, du Seigneur, tout ça. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve en prison avec un autre chrétien qui lui reparle de Jésus. Vous voyez, quand Dieu cherche quelqu'un, hein, vous voyez, il ne le lâche pas. Hein. Il ne lâche pas. Et puis là, il se retrouve au bon endroit, au bon moment, dans la bonne cellule. Ça fait beaucoup de coïncidences quand même, vous voyez. Et Dieu qui change le mal en bien. Dieu qui change le mal en bien. Et cet homme, il se convertit. Voyez, il se convertit. Il y a encore une fois, mais c'est extraordinaire. Voyez. Et ce qui m'interpelle dans cette histoire, quand je réfléchissais à ça, c'est que Paul, il va le renvoyer à Philémon. On vient de le lire. Là. Il va le renvoyer. Je te le renvoie. Voyez. Mais tout ce qui s'est passé, Philémon, il n'en était pas conscient, lui. Lui, il était parti, vous voyez. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, vous voyez, tous les moyens de recherche, tout ça. Il est parti. Des esclaves qui s'enfuyaient, c'était monnaie courante à l'époque. Hein. Donc, il est parti. Et lui, il était loin de s'imaginer, loin d'être pleinement conscient de ce qui se passait avec Onésime, qui est en prison, qui se convertit, et puis que Paul qui lui envoie une lettre. Moi, j'imagine, quand il a lu la lettre, Philémon, il se dit, c'est pas possible. Mais c'est vraisemblable, ça, vous voyez. Et là, pour nous, il y a quand même une belle leçon, c'est que on n'en est pas forcément conscient. Et peut-être en ce moment même, peut-être je prophétise, hein, tant mieux. Mais peut-être en ce moment même, alors que quelque part on n'en est pas conscient, on ne s'y attend pas, on ne le voit pas, Dieu est en train de changer le mal en bien. Peut-être que j'ai en train de prier pour quelque chose, pour quelqu'un, pour un problème, pour une situation qui, à l'heure d'aujourd'hui, et avec tes yeux à toi, font que tu te dis, c'est fichu, excusez-moi, c'est foutu, ça s'est tellement allé loin, et puis, de toute façon, depuis le temps, vous voyez, tous ces raisonnements qu'on a depuis le temps, etc., et puis c'est tellement allé loin, et puis ça ne pourra pas changer, et puis, vous voyez, tous les raisonnements qu'on a parfois, vous voyez. Peut-être, au travers de l'histoire de Philémon, peut-être le Seigneur peut-être dire à quelqu'un ce soir, tu n'en es pas conscient, tu le réalises pas, mais je suis en train de changer le mal en bien. Et peut-être à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, tu vas découvrir, comme Philémon, quand il a reçu la lettre de Paul et qu'il a lu ça, quoi ? Onésime qui s'est converti ? Quoi ? Oh là là, avec Paul ? Vous voyez ? Et il a dû glorifier Dieu, voyez. Et moi, j'essaie d'imaginer quand il lui a renvoyé Onésime et qu'Onésime est revenu. Les retrouvailles, ça a dû être quelque chose. Hein. Dire, je te demande pardon, tout ça. Voilà, voyez, on n'est pas conscient. Hein. Et peut-être ce soir, Seigneur veut nous encourager. Peut-être qu'il n'est pas conscient. Peut-être on est là avec nos yeux humains, charnels. Mais peut-être le Seigneur est en train de le faire, de changer le mal en bien. Alléluia. Et moi, je veux m'y attendre parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est celui qui change le mal en bien. Alléluia. Alors, je termine. La conclusion de tout ça, c'est que, j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais c'est que je me dis quand même, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je veux faire confiance au Seigneur. Je veux faire confiance. Je ne comprends pas tout. Je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas toutes les explications. Et la nouvelle que j'ai appris aujourd'hui me le montre encore. Mais je me dis, Seigneur, néanmoins, qu'importe, hein, je veux te faire confiance. Peut-être juste apporter une précision. Comprenez-moi bien. Hein, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Hein. Il y a ce verset, on va terminer par là, Jacques, chapitre 1, verset 13. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Et regardez, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Hein. Faut que ce soit clair, hein, que voilà, je voudrais pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il se sert du mal. Il se sert du mal. Il est capable de se servir de situations, hein, comme Joseph va le dire. Vous aviez médité de me faire du mal. Et ben il s'est servi du mal qu'avaient fait les frères de Joseph pour le transformer en bien. Voyez, donc Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il n'est pas tenté par le mal. C'est pas lui qui provoque le mal. C'est pas lui qui fait qu'il y ait du mal. Certainement pas, parce que Dieu n'est pas tenté par le mal. Voyez. Ses yeux sont trop purs pour vous voyez, hein, nous dit la Bible, pour regarder l'iniquité, pour voir, voyez, mais quelque part, hein, de réaliser que oui, derrière ce que je vis parfois, ben oui, il peut y avoir des situations, je ne sais pas, Joseph, c'était la jalousie, c'était la colère, c'était la haine, voyez, et des fois, oui, il y a des situations dans lesquelles on se retrouve de jalousie, de colère, de haine, vous ne savez pas pourquoi, vous vivez ça, vous êtes là-dedans, tout ça, ça c'est les hommes, voyez. Mais Dieu est capable de se servir de ça, de ce mal qui vient des hommes, du cœur de l'homme, pour le changer en bien. Voyez, et c'est ça qu'il faut réaliser. Mais important de réaliser que Dieu n'est pas tenté par le mal. Hein, Dieu n'est pas l'auteur du mal, certainement pas. Hein, il faut bien le réaliser. Alors ce soir, je voudrais que ça puisse nous encourager les uns les autres, hein, de dire Seigneur, encore aujourd'hui, il y a ce que je sais, ce que je vois, mais je veux réaliser que tu changes le mal en bien. Je répète ce que j'ai dit, je vais terminer par ça, c'est que Dieu change le mal en bien. Maintenant, aussi petit soit-il, nous avons notre part à faire. Hein. Parce que Dieu a changé le mal en bien pour Joseph, mais Joseph, s'il avait couché avec la femme de Potiphar, tout s'arrêtait. Hein. Daniel, Dieu a changé le mal en bien, Daniel et ses trois amis, mais s'ils avaient commencé à sombrer dans les compromis, ça s'arrêtait, hein, etc. etc. Vous voyez, Dieu change le mal en bien, mais nous, on a quand même aussi notre part à faire, même si elle est petite. Mais voilà, parce que sinon le plan de Dieu il s'arrête, parce que sinon alors on pourrait se dire oh, alors faisons n'importe quoi. Non. Hein, Joseph, lui, il est resté droit, il a été intègre, et Dieu l'a béni, il a changé le mal en bien. Alors moi je nous encourage, parce que des fois quand on passe par des situations, on peut être tenté de mettre un peu d'eau dans son vin, de dire ah, ben, je vais faire comme tout le monde. Surtout pas, parce que tu vas empêcher le Seigneur de changer le mal en bien. Alors, laisse le faire, toi reste droit, intègre, et alors que peut-être on n'en est pas conscient, Dieu est en train de changer les choses. Alléluia. Seigneur, encore.